sorcellerie, des intrigues de cour complètement criminelles et des décapitations royales commanditées pendant des banquets ivres.
Ouais, c'est un sacré programme.
Mais carrément. En fait, si on s'imagine la Judée du 1er siècle comme une petite contrée super paisible, tu sais, avec des sages en robe blanche qui se promènent dans la lumière du soir pour prononcer des maximes apaisantes.
Il va falloir sérieusement revoir sa copie, ouais.
Voilà, c'est exactement ça.
C'est clair, cette espèce d'imagerie d'Épinal, avec les auréoles et la sérénité absolue, bah, elle s'effondre très très vite, quand on plonge vraiment au cœur des sources historiques. On est à des années-lumière des images douces qu'on voit sur les vitraux, quoi.
Et c'est toute la mission de notre exploration d'aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, on va décortiquer les chapitres 12 à 14 de l'Évangile selon Matthieu. Et on s'appuie sur les notes de cours super denses du professeur Craig Kinner.
Tout à fait. Et c'est des notes qui nous révèlent une réalité d'une brutalité assez saisissante.
C'est ça, on entre dans un monde de conflits vraiment acharnés. On va comprendre comment les enseignements de Jésus ont créé une onde de choc, tellement subversive que les pouvoirs en place, bah, ils ont réagi avec une violence inouïe.
Oui, parce que ces textes, en fait, ils illustrent le choc monumental entre des institutions figées et un mouvement qui remet tout en question. Ce que les notes de Kinner démontrent de manière hyper spectaculaire, c'est que n'importe quelle structure de pouvoir, qu'elle soit religieuse ou politique d'ailleurs, elle devient mortelle et impitoyable dès qu'elle sent que son emprise lui échappe.
C'est fascinant. Et ce qui est fou, c'est que l'étincelle qui met le feu aux poudres, elle commence de manière tellement banale qu'on pourrait complètement passer à côté.
Ouais, la fameuse promenade dans le champ de blé.
Exactement. Donc on a Jésus et ses disciples qui se baladent un jour de sabbat. Les disciples ont faim et ils arrachent juste quelques épis pour les manger.
Et c'est là que tout l'appareil judiciaire religieux se met en marche. Les pharisiens, qui étaient un peu les gardiens d'une observance extrême de la loi, ils y voient une infraction majeure.
Alors attends, je te coupe parce que je bloque sur un détail technique depuis le début de la lecture de ces archives.
Vas-y.
S'ils arrachent du blé dans un champ qui ne leur appartient, manifestement pas, techniquement, c'est du vol de propriété privée, non? Pourquoi la violente accusation ne porte pas juste sur le vol?
Ah bah c'est une super question. Mais en fait, lui perdre l'égal de l'Antiquité au Proche-Orient l'autorisait pleinement.
Ah ouais.
Ouais, glaner dans le champ d'un autre, c'était un droit ancestral. C'était inscrit dans la loi pour permettre aux voyageurs ou aux personnes démunies de pas mourir de faim, tout simplement. Même les factions les plus dures approuvaient ce filet de sécurité sociale.
D'accord, donc l'infraction n'a rien à voir avec le vol.
Rien du tout. Elle concerne exclusivement le calendrier. On est un jour de sabbat, et la tradition rabbinique de l'époque interdisait formellement l'acte de préparer un repas pendant ce jour de repos.
Non mais attends, ils sortent pas des marmites ni un feu de camp. Le texte dit qu'ils frottent simplement les épis entre leurs paumes pour faire sauter l'enveloppe, quoi. Ils mangent le grain cru.
C'est vrai, mais dans la jurisprudence ultra détaillée des pharisiens, cette action mécanique, juste le fait de frotter le grain, bah ça tombait sous la définition légale du verbe moudre.
Moudre, oh, sérieusement?
Et ouais. Et comme moudre, c'est une étape de préparation culinaire, boum, c'est un travail interdit. L'esprit de la loi sur le repos est totalement écrasé par la lettre de la loi.
Mais c'est délirant. Ça me rappelle, tu sais, ces syndicats de copropriété complètement absurdes.
Ah, je vois très bien le genre.
Genre le règlement qui t'autorise à refaire toute ta toiture le lundi avec les marteaux et tout, mais qui va t'infliger une amende colossale si tu as le malheur de laisser tomber une goutte d'eau en arrosant ta plante sur le balcon un dimanche matin.
C'est exactement cette dynamique, oui. La règle devient une sorte d'idole procédurale, une fin en soi. Et la réponse de Jésus face à cette absurdité, elle est très stratégique.
Il ne s'excuse pas du tout sur le point technique, on est d'accord, hein?
Pas du tout. Il déplace l'argument sur le terrain de l'histoire sacrée. Il cite le roi David qui, affamé, a mangé le pain consacré du temple, un pain qui était rigoureusement réservé aux prêtres.
Ce qui établit un précédent inattaquable pour eux.
Exactement. Le besoin vital humain supplante le protocole rituel. D'où la citation du prophète Osée qu'il balance « la miséricorde plutôt que les sacrifices ».
Et alors, l'hypocrisie de la situation, elle devient encore plus flagrante juste après, dans la synagogue. On a ce gars avec la main paralysée, Jésus le guérit, toujours un jour de sabbat, mais techniquement là, il n'y a aucun effort physique.
Aucun. Pas de baume, pas de manipulation, rien. Fureur, les notes du docteur Kinner sont précieuses. Il explique que les sectes religieuses de l'époque n'étaient pas du tout uniformes. À l'extrême, t'avais les Esséniens.
Ah, eux, ils étaient intenses, je crois.
Intenses, c'est le mot. Leur fanatisme sur le sabbat confinait à la mise en danger d'autrui. Ils refusaient de secourir un animal tombé dans un trou ce jour-là.
Et les sources disent même qu'ils s'interdivaient d'aller à la selle le jour du sabbat pour ne pas travailler. Non, mais attends, sérieusement, ils n'allaient pas aux toilettes de la journée?
Sérieusement. c'était l'extrémisme absolu. À côté d'eux, les pharisiens aimaient se présenter comme les modérés pragmatiques. Eux, ils autorisaient de sauver un animal de la noyade un samedi.
Mais face à Jésus, leur beau pragmatisme s'évapore complètement. Ils acceptent de sauver un bœuf, mais ils interdisent formellement qu'un humain retrouve l'usage de sa main, sous prétexte que sa vie n'est pas en danger immédiat.
Voilà l'hypocrisie.
Il y a un truc super incohérent, parce que d'après les notes, la justice des pharisiens était normalement très célèbre pour sa clémence, non ?
Oui. On a des traces montrant qu'ils exigeaient un standard de preuve délirant pour condamner quelqu'un à mort. Il fallait au moins deux témoins oculaires directs du meurtre.
J'en trouvais un gars couvert de sang avec un poignard au-dessus d'un cadavre encore chaud, ça suffisait pas légalement, hein ?
Même pas. Ça ne suffisait pas.
Alors comment un groupe avec de telles garanties pénales peut soudainement comploter un assassinat pour une simple phrase de guérison ?
La faille logique, elle s'explique par la terreur de perdre leur hégémonie. C'est plus une question de justice. C'est sociologique quand un homme attire des foules immenses, guéri par une parole et démonte publiquement la légitimité de l'élite, c'est une anomalie intolérable pour le système.
Donc les beaux principes s'effacent pour laisser place à la volonté de le liquider politiquement, quoi.
Exactement. Et ça explique l'escalade ahurissante qui suit. L'objectif devient de diaboliser la source même de son pouvoir.
D'où la fameuse accusation avec Beelzébul.
Voilà. Affirmer qu'il chasse les démons par le chef des démons, dans le contexte du premier siècle, c'est une accusation formelle de sorcellerie.
Et la sorcellerie, c'était la peine de mort directe.
Immédiate.
Mais le raisonnement est super irrationnel. Ces chefs, c'étaient des maîtres de la logique. Comment espérer faire croire qu'un homme utilise des forces démoniaques pour libérer des gens de ces mêmes démons ? C'est totalement contre-intuitif.
Jésus détruit d'ailleurs cet argument direct. Un royaume divisé contre lui-même s'effondre. Satan n'a aucun intérêt à expulser ses propres troupes. Mais la riposte pointe aussi une hypocrisie géniale. Les propres disciples des pharisiens pratiquaient des exorcismes à l'époque.
Ah oui, mais leur méthode à eux ? On lit dans les détails historiques que c'était des trucs hyper alambiqués. Des racines qui puaient, des bacs magiques, des incantations super complexes.
Oui, ça ressemblait beaucoup plus à de la vraie magie occulte. Alors que Jésus n'utilise aucun accessoire, juste l'autorité de l'Esprit de Dieu.
Ce qui renvoie au doigt de Dieu dans l'Exode quand les magiciens égyptiens reconnaissent leur défaite face à Moïse.
Tout à fait. C'est affirmer une action pure et souveraine, sans artifice. Et c'est dans ce climat super toxique qu'apparaît cette fameuse notion de blasphème contre le Saint-Esprit.
Ah oui, ça c'est un concept qui terrifie encore plein de gens aujourd'hui. On s'imagine que c'est une sorte de gaffe cosmique. Genre, on trébuche, on lâche une insulte sous le coup de la colère et hop, notre dossier est fermé pour l'éternité.
C'est une angoisse courante, ouais. Mais les sources montrent que c'est pas du tout un faux pas verbal accidentel. C'est une condition spirituelle prolongée, un endurcissement volontaire et définitif de la conscience.
Donc voir une œuvre pure, motivée par la compassion, et choisir consciemment, par pur orgueil politique, de l'étiqueter comme satanique, c'est ça le cœur calcifié.
Exactement.
Pour ceux qui nous écoutent, j'ai une image en tête. C'est pas comme faire un faux mouvement et glisser du pont d'un bateau. C'est genre, t'es en train de te noyer en pleine tempête. Un canot de sauvetage arrive, on te lance une bouée, et toi, tu refuses farouchement de l'attraper en hurlant aux autres naufragés que le capitaine est un monstre marin déguisé venu vous dévorer.
C'est une excellente analogie. Le pardon est impossible non pas parce que le sauveteur est cruel, mais parce que le naufragé s'est barricadé contre l'unique moyen de survie.
Et ce refus obstiné, ça éclaire la scène où ils exigent cyniquement un signe, non ?
Oui, Jésus refuse de participer à leur petit théâtre. Il promet juste le signe de Jonas, une référence cryptique à 3 jours dans la mort. Et il ajoute une sentence redoutable. Au jugement, des peuples barbares comme ceux de Ninive ou la reine de Saba se lèveront pour condamner cette élite.
Parce que eux avaient su reconnaître l'autorité divine avec beaucoup moins de preuves. C'est une vraie claque.
Une claque monumentale. Et l'onde de choc va frapper jusqu'au cœur de la société antique, la famille biologique.
Ah, quand il redéfinit sa famille, il dit que ce ne sont plus ses frères de sang ou sa mère, mais ceux qui suivent l'enseignement divin. C'est un séisme culturel.
En effet, l'individualisme n'existe pas à cette époque. Rompre la primauté absolue du sang pour une loyauté spirituelle, c'est perçu comme une folie antisociale totale.
Et face à tous ces rejets viscéraux, Jésus change complètement de stratégie de communication. Il se met à utiliser un format crypté, les paraboles.
Le machal en hébreu, ouais. Ce ne sont pas juste de jolies histoires morales. Le but, c'est de dissimuler volontairement la vérité à l'orgueilleux, tout en l'offrant à celui qui cherche humblement.
C'est un peu comme les scènes post-génériques dans les gros blockbusters au cinéma aujourd'hui, quoi.
Comment ça ?
Ben, le public qui vient juste pour le pop-corn, il quitte la salle au générique. Il rentre chez lui en croyant avoir tout vu et il rate la vraie fin. Seuls ceux qui s'investissent et qui restent assis jusqu'au bout, comme les disciples ici, accèdent à la clé du message secret.
C'est très bien vu. C'est une ségrégation intentionnelle. D'ailleurs, les notes du professeur Kinner montrent qu'il y a eu une grosse erreur d'interprétation académique là-dessus.
Comment ça ?
Pendant longtemps, des érudits occidentaux comme Adolf Jülicher voulaient imposer une logique grecque à ces textes moyen-orientaux. Ils disaient qu'une parabole n'avait qu'un seul point de comparaison central.
Appliquer la rhétorique d'Athènes à des paysans galiléens, c'est complètement hors sol.
Complètement ! Heureusement, des chercheurs comme Fibig et Johnston ont prouvé le contraire. Les paraboles juives ont de multiples points de contact. L'exemple rabbinique classique, c'est le roi qui embauche un aveugle et un boiteux pour surveiller son verger.
Et ils s'associent pour frauder, c'est ça l'idée. Le boiteux monte sur le dos de l'aveugle.
Exactement. Au jugement, le roi représente Dieu, et l'aveugle et le boiteux incarnent l'âme et le corps humain, jugés ensemble parce qu'ils ont péché de concert.
Donc chaque détail compte. Ça change tout pour la parabole du semeur.
Totalement. Surtout avec les données agricoles de nos sources. On apprend qu'en Italie antique, un rendement de 5 ou 6 pour 1, c'était la norme. Mais en Judée, c'était 7,5 à 10 pour 1.
Et surtout, il y a la technique même du semis. Moi, je me disais, pourquoi le semeur jette-t-il des graines sur le chemin dur ou les cailloux ? C'est stupide.
Eh bien non, car en Galicie à l'époque, la pratique courante, c'était de jeter la semence à la volée sur la terre aride, d'abord, avant de passer la charrue pour l'enfouir.
Ah, donc pour les paysans qui écoutent, c'est pas une erreur pro, c'est juste le début d'une journée normale.
Voilà. Le mystère ne porte pas sur le semeur, mais sur la réceptivité du terrain, le cœur humain.
Et l'histoire du bon grain et de l'ivraie, c'est pareil, c'est du réalisme rural brut. Un ennemi qui sabote un champ en pleine nuit. Ça fait presque blague de mauvais voisinage, mais c'était un fléau économique terrifiant.
L'ivraie, le Lolium tomoletum, est indiscernable du blé au début de sa croissance.
C'était tellement commun que les Romains avaient carrément des lois pénales contre ça. C'est dingue.
Et ça donne une image puissante. Le bien et le mal croissent ensemble, indiscernables jusqu'au jugement final.
Ensuite, on a le contraste des petits commencements avec la graine de moutarde qui devient un buisson géant de presque 3 mètres. Mais c'est l'image du levain qui est la plus folle pour moi.
Avec les 50 livres de farine, ouais.
C'est énorme. C'est absurde pour une seule femme dans un usage domestique.
Oui. Avec 50 livres de farine, on nourrit plus de 100 personnes. C'est l'échelle d'un grand banquet. Le levain, invisible, disparaît dans cette masse, mais sa puissance de transformation infiltre tout, silencieusement. C'est ça le royaume.
Et ce royaume, il exige tout. Le trésor caché dans le champ que le gars achète grâce à une faille juridique, ou la perle de très grande valeur venue de la mer Rouge, les deux exigent de liquider absolument tout ce qu'on possède.
Un dévouement absolu. Et c'est là que ça devient dangereux. Quand une autorité spirituelle exige une allégeance totale, elle entre en collision frontale avec les pouvoirs politiques en place.
Et on le voit de façon tragique avec Hérode Antipas et Jean-Baptiste. On quitte les paraboles pour tomber dans les complots, le sang et la géopolitique pure.
Le contexte est hyper inflammable. Antipas n'est qu'un tétrarque, un gouverneur vassal de Rome. Il répudie sa femme, qui est une princesse nabatéenne, fille du roi Arétas IV, pour épouser Hérodiade, la femme de son frère.
Un scandale total. Et la princesse s'enfuit chez son père, ce qui déclenche une guerre cataclysmique.
L'armée d'Antipas se fait anéantir par les nabatéens. C'est un désastre.
Donc, quand Jean-Baptiste dénonce publiquement ce mariage, c'est pas juste le moralisateur de service. Il frotte du sel sur une plaie géopolitique béante. Il dénonce la cause exacte d'une guerre qui vient d'humilier la nation.
Exactement. Il devient une menace directe pour la sécurité nationale, d'où son arrestation brutale et son envoi au cachot de Machéronte. Antipas est terrifié par l'idée d'un soulèvement populaire.
Et tout ça se termine par ce fameux banquet d'anniversaire. Une tradition romaine immorale aux yeux des locaux. Le contraste avec Jésus qui nourrit les 5000 hommes dans la compassion est saisissant. Là, c'est des dignitaires ivres et flagorneurs.
Salomé la fille danse et Antipas complètement ivre fanfaronne en lui promettant la moitié de son royaume. Alors qu'il n'en a même pas, puisque c'est Rome le vrai patron.
Elle va consulter sa mère en coulisses, parce que les femmes et les hommes étaient séparés dans ces banquets. Et Hérodiade, implacable, réclame la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent.
Le piège de l'orgueil mondain se referme. Antipas ordonne l'exécution pour ne pas perdre la face devant ses invités. La décapitation, qui était paradoxalement la méthode romaine la plus rapide et clémente, contrairement à la crucifixion, met fin à la vie du prophète. La tête sur un plateau, c'est le triomphe grotesque d'une autorité paranoïaque.
C'est vertigineux quand on repense au parcours de cette exploration. On part d'une petite dispute sur des épis de blé le jour du sabbat, pour finir avec la décapitation politique d'un homme qui menaçait un régime décadent. Le message exigeait une loyauté absolue qui pouvait coûter la vie.
Et la grande histoire apporte une ironie cinglante à tout ça.
Raconte, parce que la fin d'Antipas et Hérodiade, elle est savoureuse dans les archives.
Quelques années plus tard, le frère d'Hérodiade, Agrippa Ier, devient roi de Judée grâce à ses connexions avec l'empereur Caligula. Hérodiade, folle de jalousie de n'être que la femme d'un tétrarque, harcèle Antipas pour qu'il aille à Rome exiger le titre de roi.
La pire idée face à un empereur comme Caligula.
La pire. Caligula est furieux de cette insolence. Il les destitue, confisque tous leurs biens et les bannit à vie dans les brumes de la Gaule.
L'ironie absolue. S'ils avaient écouté la voix dissonante de Jean-Baptiste au lieu de le faire taire, ils auraient peut-être évité la chute de leur propre pouvoir.
C'est l'ultime paradoxe de l'orgueil humain.
Eh bien, ça nous laisse une sacrée réflexion pour aujourd'hui. On peut se demander, pour notre propre public, dans notre monde saturé d'informations, de bruits et de distractions, est-ce qu'on est encore capable de reconnaître ce fameux levain caché ?
Et cette force discrète qui transforme la société, oui.
Ou alors, est-ce qu'on est trop hypnotisé par les drames politiques éphémères et les banquets de notre époque, au point de passer à côté du vrai trésor? C'est une question redoutable pour clôturer cette analyse. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur des textes, et à la prochaine exploration.